Radio Star, la web radio de Saint-Amand.
Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur Radio Star. Bonjour Elliot.
Bonjour Pablo, bonjour à tous. C'est déjà la dernière émission de l'année et nous vous promettons un très beau programme avant de vous souhaiter de très bonnes vacances.
Avec, pour commencer, une actu Saint-Amand très chargée.
Effectivement, on reviendra d'abord sur le très bel échange avec Kansas City, le projet musique des 3e avec la Tabale, la séance handisport proposée par l'UNSS.
Mais aussi le voyage des 5e au Futuroscope, le spectacle des élèves de primaire pour la fête de l'école, sans oublier les spectacles de la chorale et de l'atelier théâtre du collège.
Place ensuite à l'actu sport avec l'événement incontournable de ce mois de juin. La Coupe du Monde de football est un dilemme. Faut-il la boycotter ?
Avant de finir l'année scolaire, le débat de Radio Star sera consacré cette fois-ci aux devoirs à la maison. Sont-ils utiles ? Faut-il les supprimer ? Nos journalistes vous donnent leurs avis.
Côté culture, nous reviendrons sur l'un des plus grands festivals de musique au monde, Coachella, dont l'édition 2026 a encore fait beaucoup parler avec ses nombreuses stars.
Retour ensuite au Pays Basque avec dans l'actu local un petit tour d'horizon des nombreuses fêtes à ne pas manquer cet été dans notre belle région.
Et pour terminer, nos chers cuisiniers vous proposeront une recette salée pour vos apéros de l'été.
Vous êtes prêts ? Allez, jingle !
L'actu Saint-Amand.
Direction Kansas City pour commencer dans l'actu Saint-Amand.
Et oui, comme vous le savez, un nouvel échange avec les élèves d'un collège de Kansas City aux États-Unis a eu lieu au mois d'avril et au mois de mai.
Tout d'abord, ce sont des élèves de 4e du collège qui sont partis pendant les vacances de Pâques. Louison, qui faisait partie du voyage, leur a posé quelques questions sur leur séjour américain. On les écoute.
Bonjour, quel était ton meilleur souvenir de Kansas City ?
Mon meilleur souvenir, c'était quand avec les autres Français, on a fait une sortie avec les Américains pour aller au Main Event. C'était un endroit où il y avait plein de jeux et où on pouvait s'amuser avec ses potes.
Je pense que c'était quand on a pris le bus scolaire.
Je pense que mon meilleur souvenir, c'était le match de foot parce que j'en ai pratiqué pendant 4 ans. Et genre l'ambiance, c'était beaucoup mieux qu'en France et tout. Vraiment incroyable l'ambiance, grand écran et tout, la foule en délire. Enfin voilà, incroyable.
Qu'avez-vous visité ?
Alors on a visité des musées, on a visité un zoo, on a visité des places genre où on fait du shopping et tout, une gare...
On a visité des monuments, des musées, et on s'est baladé dans la ville. On avait beaucoup de temps libre, c'était cool.
On est allé dans une salle d'arcade et on a mangé dans des restaurants typiques américains.
Et puis après, avec quelques Français et quelques Américains, on est allé voir le stade de l'équipe de football américain.
Comment étaient les cours ?
Les cours étaient un peu pareils que la France, à part qu'il n'y avait pas de récré.
Les cours étaient beaucoup plus sympas et plus intéressants.
Alors c'était beaucoup mieux qu'ici, beaucoup moins strict. Ils pouvaient se lever en classe, ils pouvaient même aller jouer au foot s'ils en avaient envie. Ils n'étaient pas vraiment obligés, ils pouvaient discuter. Enfin c'était beaucoup moins strict et pourtant ils ont le même résultat que nous.
Qu'avez-vous trouvé de plus différent par rapport à la France ?
L'école, elle était grande et il y avait des casiers. Et c'était les enfants qui se déplaçaient et pas les profs.
C'est assez différent et en même temps assez pareil. Il y a plein de choses qui changent, mais en même temps, je pense que l'ambiance et tout ça, c'est une autre ambiance que la France.
Les voitures sont beaucoup plus grosses.
Comment était la nourriture ?
C'était un peu plus gras que par rapport à la France, quoi.
Alors moi, je suis végétarienne, du coup, j'ai mangé que de la salade.
La nourriture était bonne, mais comme c'est très gras, on en avait souvent marre.
Comment était votre famille et votre correspondant ?
La famille était très accueillante et la correspondante très gentille.
Alors ma famille était géniale, en plus il y avait deux chiens, donc voilà, c'est devenu mes enfants carrément. Puis ma correspondante géniale, c'est devenu ma petite sœur. Carrément, au lieu de dire correspondante, je me trompais, je disais cousine. Enfin voilà, vraiment la famille incroyable.
Comme je l'avais accueillie l'année dernière, je le connaissais et j'ai très apprécié ce séjour.
Ah, c'est certain, c'est un beau voyage. Un excellent souvenir en ce qui me concerne. Et comme le veut la tradition, l'échange s'est poursuivi au mois de mai avec la venue de nouveaux élèves américains chez leurs correspondants de 5e.
Mae en a profité pour interviewer à son tour Sophia, qui séjournait chez elle, et lui poser quelques questions sur ses impressions et sur son séjour en France et au Pays Basque.
Est-ce qu'il y a une grande différence entre la France et les États-Unis ?
Ça dépend. Avec l'école, c'est vraiment similaire, mais avec la culture et... un peu la politesse, c'est différent. Et la bise, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est similaire à la bise en les États-Unis.
Est-ce que la nourriture est très différente entre les États-Unis et la France ?
Pas beaucoup, mais il y a les différences comme le jambon, on n'a pas les petits magasins de jambon. Et aussi le pâté, j'ai jamais mangé le pâté avant.
Est-ce que toi et tes amis aiment leur séjour en France?
Oui, j'aime beaucoup la France et ma famille que je reste avec. Et aussi, oui, tous mes amis, je pense qu'ils s'amusent.
Qu'as-tu visité ici?
J'ai vu les grottes, j'ai vu la plage, j'ai vu comment ils font le fromage de brebis. Je suis allée en Espagne et aussi les montagnes en Pays Basque.
Et c'était quoi ta visite préférée?
À ce point, c'est la plage. C'était vraiment, vraiment beau.
Et as-tu hâte d'aller à Paris avant de rentrer à Kansas City?
Oui, je hâte beaucoup voir Paris. Je l'aime beaucoup, comme les photos que j'ai vues. Et c'est vraiment différent de Kansas City, donc je suis heureuse de l'explorer.
Quelle est ta chose préférée en France? Qu'as-tu préféré manger?
Ma chose préférée à manger, c'est le fromage de brebis avec la confiture de cerises. Et ma chose préférée en France, j'aime beaucoup la plage et le Pays Basque. C'est vraiment beau.
Quoi de mieux que notre belle région, en effet. Mais parlons musique maintenant.
Et plus précisément, Pablo, du projet mené cette année par ta classe. Vous avez travaillé sur la création d'une chanson, c'est bien ça?
Tout à fait. Dans le cadre des cours de français et de musique, toute la classe de 3e B a eu l'opportunité de composer une chanson en collaboration avec La Tabale et le chanteur David Kérol.
Et combien de temps a duré ce projet?
3 jours en tout, 2 jours en classe pour composer la chanson, puis une journée pour l'enregistrer à La Tabale, la Biarritz.
La composition, ça s'est passé comment? Tu peux nous expliquer?
Bien sûr. Alors le premier jour, David nous a présenté le projet. Nous avons trouvé le thème ensemble et après on a chacun de notre côté écrit des vers, des mots, des phrases, bref, tout ce qui pourrait être utile. Ensuite, on a écrit le refrain et les premiers couplets. Le deuxième jour, on a fini d'écrire les paroles et on a commencé à composer la partie musicale.
Et le jour de l'enregistrement, c'était comment?
À La Tabale, nous avons été accueillis le matin par le staff pour faire un briefing avant d'aller enregistrer dans un vrai studio professionnel avec David et Marian, l'ingénieur du son. Dans l'après-midi, pendant que les musiciens enregistraient la partie musicale, le reste du groupe a visité les lieux.
Une très belle expérience, dis donc. Et comment s'appelle cette chanson alors?
Elle s'appelle « La vie est un présent » et en voici tout de suite un petit extrait en avant-première pour Radio Star.
Les mêmes chances.
On n'a pas tous la même enfance.
Certains naissent sous les pommes, d'autres dans l'ignorance du monde.
Si un jour t'es malheureux et que tu rêves d'une nouvelle vie,
pense à tous les chanceux qui ne peuvent pas sortir de leur lit.
La vie est un présent que l'on doit vivre à chaque instant. La vie est un présent, saisis ta chance et maintenant. Tout peut foutre le camp en deux temps.
Génial, bravo les troisièmes. Passons maintenant à l'UNSS qui a proposé récemment une nouvelle journée pour découvrir le handisport.
Oui, ce n'était pas la première fois, mais c'est chaque année une très belle expérience pour les participants de découvrir les disciplines sportives peu connues et adaptées aux différentes formes de handicap.
Un très beau moment de sensibilisation à la question du handicap tout en s'amusant, comme l'ont découvert Robin et Louison en interrogeant les participants.
Vous participez à l'activité handisport. Pouvez-vous nous résumer en quelques phrases ce que c'est ?
Dans la continuité des Jeux paralympiques de Paris 2024 et depuis plusieurs années au Collège Saint-Amand, l'association sportive et l'association Handisport 64 font découvrir et pratiquer des activités sportives en situation de handicap.
Quel sport as-tu préféré ?
Moi j'aime bien la cécité foot parce que c'est très amusant et nous avons les yeux bandés et nous devons attraper un ballon avec qui a des cloches. C'est très drôle.
Moi, donc j'ai choisi le tir à la carabine. Donc, c'est comme avec une carabine et on tire dans des cibles.
Moi, je préfère le basket en fauteuil roulant. En gros, c'est comme le basket, sauf qu'il n'y a pas besoin de faire des rebonds avec la balle. On a la balle sur les genoux et on est assis sur un fauteuil roulant spécial.
Allez, parlons un nouveau voyage maintenant. Elliot, tu fais partie des heureux élèves de 5e partis en voyage au Futuroscope au mois de juin. Quelle chance! Alors, quand s'est déroulé le voyage exactement?
Eh bien, nous sommes partis le 15 juin très tôt à 6h du matin et rentrés le 16 à minuit. Court mais intense.
Et quel était votre programme?
Nous sommes arrivés au parc du Futuroscope vers midi. Après avoir déposé nos affaires à l'hôtel, nous nous sommes divisés en groupes pour aller découvrir le parc et ses attractions.
Excellent. Et quelles sont les attractions les plus réputées du Futuroscope ?
Il y a Objectif Mars, une montagne russe à sensation avec des effets spéciaux. La Vienne Dynamique, c'est un cinéma avec des sièges qui bougent qui permet de faire une visite guidée virtuelle du département de la Vienne.
Et quoi d'autre ?
Il y a aussi Danse avec les robots, une attraction à sensations fortes où grâce à une nacelle et un bras mécanique, nous sommes propulsés en l'air pour un max de sensations. Ou encore la toute nouvelle attraction ouverte en 2025, Opération Bermude, une aventure sur l'eau dans les rapides des triangles des Bermudes.
Ça donne vraiment envie d'y aller, dis donc. Et le soir, ça se passait comment ?
Le soir, nous sommes retournés à l'hôtel pour nous doucher et manger. Après le repas, nous sommes retournés au parc pour aller voir un spectacle nocturne.
Quel genre de spectacle ? En extérieur ?
Oui, ce sont des spectacles en extérieur. Il y a trois spectacles différents. La Clé des Songes, Eclipse Robotic Show et Illusio, un destin magique.
Et le lendemain ?
Nous avons poursuivi la visite du parc en groupe. Nous sommes partis en fin de journée après avoir tout fait ou presque. À mi-chemin, nous nous sommes arrêtés pour manger à Bordeaux avant de rentrer à Bayonne.
Eh bien, vous en avez de la chance. Vous n'avez pas le stress des examens, vous, au mois de juin.
Puisque tu parles du mois de juin, c'est aussi la saison de spectacles de fin d'année.
Oui, et à Saint-Amand, ça ne manque pas. Le premier a été celui de la chorale à la salle Loga.
Et pour en savoir plus, Pablo et Marion ont interrogé Madame Dussault, la responsable de la chorale.
Quel est le thème de la chorale cette année ?
Alors le thème de la chorale cette année, ce sont les musiques disco.
Depuis quand la chorale existe ?
Alors l'association, elle existe depuis très longtemps. Il y a quelques années, on avait fêté les 30 ans. Moi, depuis que je suis ici à Saint-Amand, ça doit faire à peu près 7 à 8 ans que je propose cette chorale.
Et combien d'élèves aura-t-il ?
En tout, le projet va rassembler 320 élèves issus de collèges différents.
C'était un sacré show, mais ce n'était pas le seul. Il y a aussi eu la représentation de l'atelier théâtre du collège.
Pablo, membre de la troupe, a profité de l'occasion pour interviewer M. Pinault sur le fonctionnement de l'atelier et la pièce jouée cette année. On les écoute.
Pourquoi animez-vous l'atelier théâtre ?
J'anime l'atelier théâtre parce que d'une part je suis passionné de théâtre et parce que je pense que ça permet à tous les élèves volontaires de proposer une autre version d'eux-mêmes et de mettre en avant d'autres facettes de leur personnalité et d'autres qualités.
Et depuis quand l'atelier théâtre existe ?
Ça doit faire 7 ou 8 ans, je pense, que j'ai mis en place l'atelier théâtre au Collège Saint-Amand.
Ah oui, ça fait longtemps. Et cette année, combien y a-t-il d'élèves dans la troupe ?
Il y a 13 élèves dans la troupe, de la 6e à la 3e.
Et comment avez-vous choisi la pièce cette année ?
J'essaie de choisir des pièces assez drôles, assez brèves pour pouvoir les mettre en place et qui proposent beaucoup de personnages de manière à ce qu'il n'y ait pas un acteur central qui ait trop de texte à dire.
Quand aura lieu la représentation ?
Il y aura une première représentation le jeudi 11 juin à 18h. Avec les parents des acteurs et actrices, leurs camarades et l'ensemble de l'équipe pédagogique. Et une deuxième représentation le lendemain, le vendredi 12 juin, avant la célébration de fin d'année, à destination des élèves de CM2 de Saint-Amand, de manière à faire le lien entre l'école et le collège et d'inciter les élèves nouvellement collégiens à la rentrée d'intégrer la troupe de l'atelier théâtre.
Est-ce qu'il y aura des surprises cette année ?
Oui, il y aura une surprise pour Madame Echeverry Broca avec une pièce qui s'appelle « L'anglais tel qu'on le parle » où justement il y a une partie tout en anglais.
C'est un grand moment ces deux pièces. Je crois que tout le monde a bien ri, surtout Madame Echeverry Broca. Mais si on parle de spectacle de fin d'année, il ne faudrait pas oublier non plus celui des primaires à la fête de l'école.
Oui, c'est le grand événement annuel aux primaires qui se prépare de nombreuses semaines en avance, comme l'a expliqué Madame Martinon à Pablo et Marion.
Quel est le thème de cette année pour votre spectacle de fin d'année ?
Le thème de l'école, c'est le cinéma.
Comment se déroulent les répétitions ? Vous en faites tous les jours ?
Alors nous essayons de répéter tous les jours, nous essayons de faire des groupes pendant le sport. Et c'est compliqué parce que nous avons peu de lieux de répétition et nous sommes 8 classes de primaire.
Qu'est-ce que vous préférez dans la préparation des spectacles avec les enfants ?
Chercher les costumes, essayer de trouver des chorégraphies, enfin, un peu tout.
Comment se passe le choix des costumes ?
C'est en fonction du thème. Alors, par exemple, nous, cette année, le thème, c'est les gendarmes et les parapluies de Cherbourg. Donc, on essaie de trouver des costumes qui ressemblent à ce qu'il y avait dans ces années-là.
Y a-t-il des surprises prévues cette année ?
Peut-être, entre chaque danse. Mais ça, c'est une surprise.
Les élèves aussi se sont confiés à nos reporters sur ces répétitions joyeuses et intenses.
Comment se passent les répétitions ? Trouves-tu ça dur ?
C'est bien, la préparation se débrouille bien, on s'amuse assez, et même si c'est un peu n'importe quoi des fois.
Ce que je n'aime pas, c'est que des fois la maîtresse change d'avis et certaines fois c'est un peu dur.
Les répétitions se passent très bien, on avance vite et je ne trouve pas ça très dur.
Un bel investissement bien récompensé le jour de la fête de l'école. Alors encore bravo à tous les élèves du primaire pour leur belle performance.
Allez, on quitte Saint-Amand pour parler un peu du reste du monde maintenant. C'est parti pour l'actu sport.
L'actu sport.
La Coupe du Monde de football, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a débuté le 11 juin et durera jusqu'au 19 juillet prochain. Elle était bien évidemment très attendue par les fans de foot du monde entier.
C'est vrai, mais elle fait aussi l'objet de nombreuses critiques. Certains ont même tenté de lancer un mouvement de boycott. Martin, toi qui justement voulais peut-être boycotter cette Coupe du Monde, tu peux nous en dire plus ?
Oui, quels sont les principaux problèmes liés à cette Coupe du Monde ?
Alors, il y a différentes sortes de critiques et de problèmes. En premier lieu, cette Coupe du Monde est très critiquée pour son impact écologique très négatif.
Comment ça ?
En quoi c'est différent des précédentes ?
Eh bien, la compétition se déroule cette fois dans 3 pays, ce qui implique de nombreux déplacements des équipes et des supporters, en particulier en avion. Cela va entraîner de fortes émissions de gaz à effet de serre et donc avoir un très mauvais impact environnemental.
Quelles sont les autres critiques formulées pour justifier un boycott ?
Ce sont les supporters qui se plaignent, car non seulement les billets de la compétition sont très chers, mais ils doivent aussi payer des billets d'avion très chers, ce qui rend les déplacements difficiles pour beaucoup.
Le logement pose-t-il aussi problème ?
Oui, les hébergements sont annoncés comme hors de prix eux aussi.
Tu disais que les prix des billets sont élevés, tu peux nous donner un exemple ?
Alors un match de phase de groupe coûterait environ 2000 euros, ce qui limite l'accès à de nombreux fans. Et je ne vous parle pas des phases finales.
En plus de ça, le climat politique aux États-Unis est tendu, ça n'aide pas non plus.
C'est certain, par exemple l'équipe d'Iran dont le pays est en conflit avec les États-Unis a bien failli être interdite de Coupe du Monde. Cela choque certains pays qui trouvent ça injuste. Mais de façon générale, c'est la politique de Donald Trump vis-à-vis des visiteurs étrangers et des migrants qui fait débat.
Tu peux préciser ?
Eh bien déjà, selon leur pays d'origine, beaucoup de supporters galèrent pour obtenir un visa afin de pouvoir entrer aux États-Unis. Mais pas seulement. Des joueurs, des arbitres, des membres d'équipe nationale n'ont pas tous réussi à obtenir l'autorisation d'entrer aux États-Unis. D'autres ont peur d'être refoulés à la frontière pour leurs publications sur les réseaux sociaux, puisque désormais la police américaine vérifie les comptes de tous ceux qui veulent venir aux États-Unis. Et certains ont peur de l'ICE, la police de l'immigration américaine, et de ses méthodes qui ont fait scandale ces derniers mois.
Et toi alors, Martin, tu vas faire quoi finalement ? Tu comptes la boycotter ou la regarder cette Coupe du Monde ?
Dans l'idéal, mon objectif serait de la boycotter, mais me connaissant, je vais vite succomber à la tentation.
Tout dépendra de la réussite de l'équipe de France, je crois. Bon, au moins, maintenant, on ne sera plus trop embêté par les devoirs.
Le débat de Radio Star, c'est maintenant.
Le débat de Radio Star.
Pour ce tout nouveau débat de l'émission, nous avons donc décidé de vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, les devoirs à la maison. Et c'est Louise qui va animer aujourd'hui les débats. Louise, à toi la parole.
Merci. Alors, pour faire les devoirs, certains peuvent se faire aider, d'autres utilisent l'intelligence artificielle. Mais surtout, tout le monde ou presque trouve qu'il y en a trop, non ? Pour commencer, j'aimerais donc faire un petit tour de table pour savoir combien de temps nos journalistes travaillent chaque soir.
Moi, en troisième, j'y passe plus d'une heure.
Oui, enfin, ce n'est pas le cas de tous les troisièmes. De mon côté, je dirais 45 minutes en moyenne.
Nous, en cinquième, on y passe une heure en moyenne, je dirais.
En quatrième, c'est plutôt 30 minutes, je dirais, sauf s'il y a beaucoup de contrôles.
Oh la chance, moi, c'est plutôt une heure et demie.
En sixième, j'y passe à peu près 30 à 45 minutes en général.
Avez-vous trouvé qu'il y avait des différences ou de vrais changements entre les niveaux de la sixième à la troisième ?
L'année dernière, en sixième, il y avait beaucoup de devoirs du jour au lendemain. Mais cette année, je trouve qu'il y en a moins. Par contre, ils sont plus complexes et plus longs, mais j'ai appris à m'organiser pour m'avancer.
De la cinquième à la quatrième, je n'ai pas trouvé de différence.
Et moi, je trouve que de la quatrième à la troisième, on se rend compte que notre organisation est plutôt mauvaise et qu'on ne sait pas trop anticiper.
De la sixième à la quatrième, j'ai trouvé qu'on travaille moins longtemps parce qu'on a appris à s'organiser.
C'est plus dur cette année en quatrième, donc j'y passe plus de temps.
Moi, j'ai appris à bien utiliser les heures d'études dès la primaire pour bien m'avancer sur les devoirs. Donc c'est plus dur, mais je n'y passe pas plus de temps.
Je trouve qu'en CMD, le devoir était mieux anticipé. Nous avions une semaine pour les faire et c'était pas du jour au lendemain.
Bon, on ne va pas se mentir. Si parfois vous ne faites pas vos devoirs ou bien vous les faites dans la cour avec le cahier de votre camarade ou encore que vous les faites avec l'IA, est-ce que vous voyez une différence dans vos résultats lors des contrôles ?
Moi, je vois aucune différence.
Moi, je trouve que les devoirs n'ont pas toujours de rapport direct avec les évaluations. En tout cas, ils ne m'aident pas vraiment à les préparer. Je les fais surtout pour éviter les observations.
Je vois quand même une différence parce que les entraînements faits à la maison me permettent de mieux comprendre et d'arriver moins surprise en voyant le contrôle.
En anglais et en maths, moi, ça me sert.
Oui, ça dépend des matières.
Il n'y a pas grand monde qui aime faire les devoirs le soir après le collège, c'est certain. Mais du coup, Vous voudriez carrément les supprimer ? Quelle serait la meilleure solution selon vous ?
J'aimerais bien le supprimer, mais je suis pas sûre que ça arrive. Sinon, je trouve que faire du sport avant, ça m'aide à me concentrer et à être plus efficace.
Moi, je pense qu'il faudrait supprimer les devoirs donnés du jour au lendemain.
J'aimerais bien les supprimer, mais des fois, ça aide quand même à mieux se préparer pour les évaluations. Donc, avec modération et donner en avance.
Je pense qu'on pourrait avoir une heure d'études obligatoire en fin de journée pour faire les devoirs avant de partir du collège.
Les devoirs, c'est quand même important, mais seulement 15 à 30 minutes par jour maximum, ça suffira.
Est-ce que vous utilisez l'IA pour vos devoirs et qu'en pensez-vous ?
Ça dépend pourquoi. Pour générer des images, par exemple, ou pour m'aider à rédiger des textes pour mes exposés, par exemple.
J'utilise l'IA pour trouver des plans d'exposés.
Moi, je n'utilise jamais.
Je l'utilise pas du tout pour les devoirs, seulement parfois pour mieux comprendre les consignes des exercices.
Ça m'arrive rarement, seulement si je suis très en retard sur les devoirs.
Bon, pas sûr que ce débat change tout de suite les choses, mais au moins on peut voir que le système actuel est loin de faire l'unanimité.
Oui, bon, assez parlé d'école, non ? Allez, passons à la culture.
L'actu culture.
Dans l'actu culture, aujourd'hui, Pablo, Maë et Louise vont nous faire découvrir l'un des plus gros festivals de musique au monde. Un festival qui attire depuis plusieurs années les plus grosses stars mondiales dans le désert.
Et oui, bonjour à tous. Vous allez nous parler du festival Coachella et plus précisément de sa toute dernière édition qui a eu lieu au printemps. Alors pour commencer, ça fait longtemps qu'il existe ce festival ?
Eh bien, la première édition a eu lieu en 1999. Mais à l'origine, il faut savoir que ce n'était pas du tout un festival dont le but était d'attirer toutes les stars et influenceurs tendances, comme aujourd'hui.
Ah bon ? Mais c'était quoi l'idée de départ alors ?
Le festival est né d'un conflit au début des années 90 entre le groupe de rock américain Pearl Jam et la société Ticketmaster. Vous savez, celle qui vend les billets de concert à des prix toujours plus élevés ? Le groupe cherchait à se produire en Californie dans un lieu non contrôlé par Ticketmaster. Ils ont alors fait appel à un certain Paul Tollett qui a trouvé un lieu idéal.
Au début, le festival perdait de l'argent. Mais le lieu a tout de suite été considéré comme parfait pour accueillir de grandes manifestations musicales. Le festival a donc finalement été racheté en 2001 par un géant mondial de la production de concerts, AEG, et il a commencé à faire parler de lui dans les années 2000.
Parlons du lieu où se déroule le festival. C'est vraiment en plein désert ?
Oui, il a lieu à Anzio, à 2 heures de Los Angeles, en Californie. Mais l'emplacement est l'un des plus pollués des États-Unis, avec un taux très élevé de microparticules. Ces dernières années, de nombreux festivaliers se sont ainsi plaints sur les réseaux d'une tour de Coachella.
Et en plus, on dit que le festival est lui aussi une forte source de pollution.
Oui, certains parlent même de désastre écologique. Entre les dépenses en eau et en électricité en plein désert et 1600 tonnes de déchets produits en quelques jours, dont seulement 20% seraient recyclés.
Il paraît aussi que c'est ultra cher pour y assister, c'est vrai ?
Si vous y assistez, prévoyez un gros budget en effet. Le premier week-end du 10 au 12 avril, il fallait compter autour de 500 €. Et le deuxième week-end du 17 au 19 avril, plus de 450 €. Et pour les places VIP, le pass coûtait à partir de 1 200 $, soit plus de 1 000 €.
Ah oui, c'est pas pour toutes les bourses. Et pourquoi est-ce que Coachella est aujourd'hui l'un des plus gros et célèbres festivals au monde ?
Eh bien, en quelques années, le festival a été marqué par des concerts et événements inoubliables qui ont su faire de ce festival un rendez-vous mythique. À commencer par un groupe français, les Daft Punk, dont le concert en 2006 a permis l'explosion de la musique électronique aux États-Unis.
Il y a eu aussi le show mémorable d'Amy Winehouse en 2007, le concert mythique de Prince en 2008 ou encore celui de Dr. Dre et Snoop Dogg en 2012, accompagné sur scène par toutes les légendes du rap américain, y compris le hologramme du rappeur assassiné Tupac.
Et en 2018, la performance engagée et spectaculaire de Beyoncé, première femme noire tête d'affiche du festival, reste également dans toutes les mémoires.
Et cette année, c'était une grande année pour le festival ?
Effectivement, il y avait une centaine d'artistes de tout style. Les grosses têtes à l'affiche étaient Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G. Karol G est la première femme latina en tête de l'affiche de Coachella.
Il y a aussi eu des événements dont tout le monde a parlé, non ?
Oui, Pink Panthers était notamment très attendu grâce à sa nouvelle collaboration avec Sarah Larson. Karol G, elle, a hypnotisé le public. Sa prestation à Coachella la consacre comme la nouvelle mère de la musique latina.
C'était aussi le grand retour de Justin Bieber après 3 ans d'absence. Le chanteur a livré une performance nostalgique et émouvante en reprenant ses plus grands tubes devant des milliers de fans.
Mais la performance la plus exceptionnelle revient sans aucun doute à Sabrina Carpenter qui a dévoilé un show spectaculaire et ambitieux sur un sol jonché d'étoiles dans le décor de collines surmontées de l'ancienne
Sabrina Wood. La chanteuse s'est élevée dans une voiture au-dessus d'un siège fontaine. Sa performance surprise avec Madonna lors du dernier week-end était également dans tous les médias.
Merci à tous. Dommage, mais je n'ai pas encore les moyens d'aller à Coachella. Au moins, je pourrai toujours me rattraper avec les fêtes de l'été.
Vous voulez en savoir plus ? L'actu local, c'est parti !
L'actu local.
Qui dit été dit liberté.
On est tous d'accord pour dire que les plages, les montagnes et le beau temps sont à l'origine du bon vivre du sud-ouest. Mais alors que l'été approche, il ne faudrait pas oublier les fêtes, surtout au Pays Basque.
Dis-moi Robin, quelles sont les fêtes locales à ne pas manquer ?
Toutes, ce sont des fêtes. Non, je plaisante. Mais bien sûr, il y a des incontournables. Les fêtes les plus connues sont bien évidemment les fêtes de Bayonne, qui se dérouleront du 15 au 19 juillet 2026, ou encore les fêtes de Saint-Jean-de-Luz du 18 au 22 juin 2026. Pour les fans de musique basque, il y a également le festival Euskal Herria Zuzenean du 26 au 28 juin à Arberat-Sileg.
Ok, il y a des fêtes qui attirent particulièrement les ados ?
Évidemment, lorsque vous aurez enfin atteint l'âge, les premières fêtes locales seront sûrement celles d'Arkang qui se dérouleront à la mi-juin, puis celles d'Ustaritz à la mi-juillet, entre autres. Il y a des fêtes de village tout l'été, partout au Pays Basque, y compris en septembre.
Et pour les autres tranches d'âge ?
Pour les plus âgés, la fête du thon a lieu le 25 juillet et la nuit de la sardine le 4 août à Saint-Jean-de-Luz.
Et pour les fans de tradition locale basque ?
Si vous préférez le côté traditionnel, toutes les fêtes de village sont formidables. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais certains disent que les fêtes d'Asparin ou encore celles de Saint-Jean-de-Luz sont parmi les plus authentiques.
Et côté Pays Basque Sud, il y a de grandes fêtes aussi, non ?
Et même la plus grande de toutes, la San Fermín, qui se déroulera cette année du 6 au 14 juillet à Pampelune. Au mois d'août, faites aussi un tour à la Semana Grande de San Sebastián avec le concours international de feux d'artifice du 8 au 15 août. Et pour finir, allez découvrir Astenagushia à Bilbao du 15 au 23 août.
Petit rappel tout de même avant de se lancer dans cet été festif.
Oui, l'abus d'alcool est interdit au moins de... Allez, je vous piège, 18 ans. Et nous vous rappelons que sans alcool, la fête est plus folle.
La cuisine de Radio Star.
L'été, c'est aussi la saison des apéros. Et pour ça, bien sûr, nos cuisinières maison ont tout prévu.
Jacqueline, Gertrude, mes petits-enfants viennent manger, mais ils n'aiment que le fast-food. Et moi, je déteste ce qui est industriel. Donnez-moi des idées pour plaire à tout le monde.
Pas de problème, Gérard. On a ce qu'il faut. Une bonne petite recette de mini tacos très facile à faire.
Alors, pour les ingrédients, il te faut tout d'abord un demi-chorizo que tu coupes en tout petits bouts et que tu fais cuire dans une poêle à feu moyen.
Après, tu coupes deux blancs de poulet en petits dés et une fois que les chorizos ont craché tout leur gras, tu ajoutes le poulet.
N'oublie pas d'ajouter ensuite une cuillère à café de tomates concentrées et de rajouter de la crème fraîche jusqu'à ce que le mélange soit orangé.
Ajoute aussi une pincée de sel et de poivre.
Ensuite, tu prends des tortillas, tu les coupes en deux, tu replies le bord arrondi de manière à former une bande droite.
Tu mets de la mozzarella râpée, le mélange que tu as fait cuire au bout de la tortilla.
Puis tu replies la tortilla un peu comme un samosa. D'abord, le bout où tu as mis les ingrédients vers le bord droit, puis tu plies vers la gauche. Enfin, tu enfiles le bout de tortilla qui dépasse entre les plis pour refermer.
Ah, merci mesdames, vous m'avez sauvé du drame juste à temps.
Ah oui, merci à nos chères cuisinières, vous m'avez mise en appétit. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et même adieu, car c'est ma toute dernière émission.
Fini le collège pour toi et Martin. Très bon vent à vous deux les garçons. Et encore merci pour toutes ces belles années de service à Radio Star. On ne vous oubliera pas.
Très bonnes vacances à tous, chers auditeurs, et merci pour votre fidélité.
Tout le reste de notre belle équipe vous dit à l'année prochaine.
Bonnes vacances à tous.
C'était l'émission